Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine.
Se meubler en conciliant nos engagements économiques ainsi qu'à prix accessible peut parfois s'apparenter à un véritable casse-tête. Si bien évidemment, il est souhaitable de privilégier la seconde main, cela n'est pas toujours possible. Alors, que peut-on faire? Aujourd'hui, je m'entretiens avec Bérangère Asséante, responsable RSE de l'entreprise française But. Dans cet épisode, elle nous explique comment l'entreprise But parvient à concilier engagement écologique et prix accessible. J'espère que cet épisode vous plaira et que vous en apprendrez beaucoup sur ce secteur de l'ameublement que je n'ai encore que trop peu étudié au micro de Basilic. Je remercie les équipes de But de soutenir le podcast. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Bérangère.
Bonjour Jeanne.
Comment allez-vous?
Écoutez, ça va parfaitement bien. Je suis ravie d'être là.
Moi, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. On va parler d'ameublement, un sujet que je n'ai que très peu traité sur Basilic. Mais c'est un sujet qui me tenait à cœur. Et comme je vous le disais avant qu'on échange pour ce podcast et quand on a commencé à réfléchir à l'épisode, moi, je suis rentrée en France il y a quelques années. J'ai eu besoin de meubler mon appartement et j'ai été confrontée à ces problématiques d'éco-responsabilité, d'engagement personnel et d'offres aussi. Donc c'est tout ce dont on va parler aujourd'hui, mais avant j'aimerais que vous commenciez s'il vous plaît par vous présenter pour les auditeurs et les auditrices de Basilic.
Alors avec plaisir, donc moi je suis Bérangère Asséante, je suis directrice RSE innovation et relations presse de l'enseigne d'ameublement et de décoration But. J'ai ce poste depuis un an et demi maintenant et je suis bientôt chez But depuis 7 ans. Alors avant d'être passionnée par les sujets RSE, qui sont effectivement extrêmement passionnants, en fait j'ai plutôt une expérience de 15 ans dans les achats, dans différentes directions commerciales, que ce soit dans le secteur de la décoration et aussi dans le secteur du loisir, puisque j'ai été auparavant chez Conforama pendant 2 ans et demi, et puis chez Disneyland Paris pendant 10 ans. Donc voilà, donc un parcours assez riche et assez complet pour aujourd'hui parler de la RSE.
Et donc aujourd'hui, vous êtes à la tête de ce pôle RSE chez But. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur votre métier, vos fonctions et comment est-ce que ça se passe le quotidien d'une responsable RSE?
Alors, le quotidien d'une responsable RSE, ça a vraiment multifacettes. Alors moi, j'ai quand même la chance d'être dans une entreprise qui est déjà très engagée sur ces sujets RSE, avec un comité de direction qui est très convaincu par ces sujets. Mais si je devais un peu résumer mon quotidien et synthétiser ma mission, c'est vraiment de convaincre l'intégralité en fait des parties prenantes internes de l'entreprise, donc bien sûr les collaborateurs, mais aussi les parties prenantes externes que sont nos partenaires, nos fournisseurs, nos clients, qu'en fait quand on est numéro 2 aujourd'hui du marché de l'ameublement, on a une responsabilité. On se doit en tout cas d'avoir un rôle à jouer sur ce sujet et qu'il va falloir repenser un petit peu, réaménager nos façons de faire, nos façons de faire nos métiers. Et voilà, et c'est une des missions quand même principales, c'est convaincre que notre positionnement nous confère cette responsabilité. Et puis l'autre mission aussi, c'est que bien sûr, cette responsabilité, c'est aussi une chance. Et que si on regarde à première vue, ça peut être évidemment une addition de beaucoup de contraintes. Mais c'est surtout en fait transformer ces contraintes en opportunités pour justement permettre à l'entreprise de se réinventer, d'innover et de se différencier. Et surtout, je pense que cet atout-là peut être un vrai facteur de différenciation par rapport à nos concurrents. Donc c'est vraiment montrer cette opportunité et cette chance pour l'entreprise.
Vous le disiez, ça va vous pousser à vous réinventer. But est une entreprise qui existe depuis 1972. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cette entreprise que les auditeurs et les auditrices peut-être connaissent mal ou en tout cas n'ont pas tout l'historique en tête ?
Alors, effectivement, donc Butte, ça a été créé en 1972. On a aujourd'hui 50 ans. Donc, on fête cette année nos 50 ans. Donc, on est extrêmement fiers. En fait, Butte, depuis le tout départ, c'est quand même un commerçant en son temps, parce qu'en fait, il a créé donc, dans les années 70 le prêt-à-meubler. Donc ça, c'était quand même assez révolutionnaire sur le marché de l'ameublement. Et aujourd'hui, on est le premier réseau d'équipement de la maison. Donc on a eu une belle évolution. Alors on se souvient, alors je ne sais pas tout le monde, j'imagine pas, certainement pas les nouvelles générations, mais le Juste Prix, donc, qui était à l'époque quand même un énorme tournant pour l'enseigne en termes de communication. Et c'est ce qui a valu à l'enseigne d'être connue aujourd'hui de beaucoup de Français. Ça a marqué plusieurs générations. Et aujourd'hui, évidemment, ça nous confère une notoriété qui est très importante. Mais Butte, c'est une entreprise qui a beaucoup changé les 10 dernières années. Évidemment, le marché lui-même a effectivement évolué. On était vraiment sur un marché phase déco où les renouvellements de gamme devaient être importants. Donc nous, on s'est structuré, on a évolué. On a créé des bureaux de design en interne. On a créé nos propres collections, nos marques exclusives. Donc on s'est vraiment diversifié dans l'offre et modernisé. Et aussi, on a beaucoup modernisé nos magasins, puisque l'expérience client est devenue fondamentale aujourd'hui dans la distribution. Aujourd'hui, on est omnicanal, puisque c'est aussi un sujet lié à la crise sanitaire et un mode de consommation qui a beaucoup évolué. Et Internet aujourd'hui est bien sûr très important. Donc, c'est une entreprise qui a vraiment su évoluer au fil du temps. Et aujourd'hui, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est une belle entreprise. Il y a 320 magasins sur tout le territoire français. On a 40 partenaires franchisés, puisqu'on est effectivement 2/3 de magasins intégrés et 1/3 de magasins franchisés. On a 9000 collaborateurs. Donc c'est une grande entreprise riche de diversité et de personnes. Et puis voilà, aujourd'hui, on est le numéro 2 du marché de l'ameublement en France. Donc une belle histoire, une belle aventure et surtout une belle aventure qui va continuer.
On l'espère et on vous le souhaite. Par curiosité, est-ce que vous savez où était le premier magasin Butte ?
Alors, il me semble que c'était au Havre. Ouais. Donc voilà, c'est le tout départ de l'enseigne. Et aujourd'hui, on est présent sur tous les territoires de France. Donc on est à moins de 20 minutes d'un client Butte aujourd'hui. Donc un beau maillage magasin.
Alors, vous le disiez, vous fêtez cette année vos 50 ans. C'est l'occasion pour vous de réaffirmer des principes qui vous sont chers. Nous, évidemment, chez Basilic, on s'intéresse à l'écologie et à l'éco-responsabilité des produits. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Vous êtes très bien placé puisque vous êtes responsable RSE, donc c'est parfait. J'avais envie de comprendre d'abord les nouveaux enjeux auxquels l'entreprise Butte était confrontée aujourd'hui. Vous l'avez dit, hein, le marché de l'ameublement a évolué. Vous avez dit qu'il allait falloir vous réinventer. Mais quels sont finalement ces nouveaux enjeux ? Comment est-ce que ça se concrétise dans votre entreprise ?
Alors, il est clair que la crise sanitaire a changé évidemment les modes de vie des Français. On a passé beaucoup plus de temps chez soi, de par les confinements successifs, le télétravail, qui a aussi quand même bouleversé pas mal les modes de vie. Et tout simplement, de ce fait, les Français ont souhaité réaménager, réorienter, redécorer, améliorer leur intérieur. Et évidemment, ça a porté le secteur de l'ameublement, bien évidemment. Et je pense que ça va être quelque chose... C'est un mouvement qui va durer sur le long terme, parce que l'habitat aujourd'hui est vraiment une des préoccupations premières des Français. Le bien chez soi, c'est devenu assez fondamental dans la vie aujourd'hui de tous les jours. Donc bien sûr, ça engendre un certain nombre de changements dans les enjeux. Alors il y a des enjeux économiques que je développerai peut-être pas forcément là aujourd'hui, lié à une concurrence qui va bien sûr s'intensifier, qui va se réinventer, et de nouveaux entrants qui vont arriver. Nous, on a beaucoup d'enjeux aussi environnementaux, bien sûr, parce que je le disais tout à l'heure, le fait d'être numéro 2 de l'ameublement en France, ça nous confère un certain nombre de responsabilités. Et nous, notre mission, en fait, jusqu'à présent, et il ne faut surtout pas perdre de vue ce pourquoi l'enseigne a été créée, c'était vraiment satisfaire le plus grand nombre, donc proposer au plus grand nombre l'ameublement et la décoration à prix accessible. Et en fait, un des plus gros enjeux aujourd'hui pour nous, ça va être de concilier à la fois cette consommation raisonnable et ce prix abordable. Donc vraiment de lier la contrainte budgétaire à un produit plus éco-responsable. Donc ça, c'est vraiment pour nous l'enjeu majeur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le facteur du pouvoir d'achat, le prix, c'est le premier critère d'achat aujourd'hui des Français. Donc c'est vraiment important dans le choix aujourd'hui des consommateurs. Et c'est notre mission première. Donc nous, aujourd'hui, on est en pleine réflexion, effectivement, notamment sur tout le cycle de vie du produit, vraiment du début jusqu'à la fin, pour permettre, évidemment, de créer des produits plus éco-responsables, tout en maintenant, évidemment, ce prix qui est fondamental et qui est précieux pour nos consommateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement revoir l'intégralité du cycle de produit? C'est bien sûr repenser la provenance. Alors, on le verra, nous on est plutôt bon sur ces sujets de provenance, puisqu'on a choisi dès le départ et dès d'ailleurs la création de l'entreprise la proximité. Mais c'est aussi repenser les usages, c'est aussi choisir des matières plus de sources plus responsables, c'est aussi choisir des transports plus vertueux, c'est aussi réfléchir sur l'éco-conception de nos produits. Donc ça, c'est une vraie façon, c'est une nouvelle façon en tout cas de penser nos métiers. Donc ça, c'est fondamental, mais c'est très structurant pour une entreprise comme la nôtre.
Ce qui signifie que vous avez des équipes en interne qui réfléchissent à ça ?
Alors, on a des équipes en interne, effectivement, qui sont dédiées sur ce projet. Et puis, ça va passer aussi par de la sensibilisation et de la formation de nos acheteurs. Parce que comme je disais, c'est voir autrement un métier qu'ils exercent depuis très longtemps. Mais c'est aussi ce qui fait toute la richesse de cette évolution, c'est qu'il y a des nouveaux enjeux, de nouvelles façons de travailler et forcément de nouvelles opportunités pour chacun. Donc ça, c'est important. Et puis, le cycle de vie du produit, c'est aussi repenser la fin de vie du produit. Donc ça, c'est important. De toute façon, il y a une réglementation qui est de plus en plus oppressante sur ces sujets, mais qui est légitime. Donc nous, on accompagne cette seconde vie du produit, ce réemploi, à travers différents sujets, comme des partenariats avec des ESS, par exemple, ou d'autres institutions qui vont nous permettre de relayer ces sujets de réemploi. Mais c'est vraiment une autre façon de conceptualiser l'offre produit aujourd'hui, et il faut accompagner les acheteurs. Et puis, un autre enjeu qui est fondamental, et la crise sanitaire a aussi accentué ce sujet, c'est la transparence. Aujourd'hui, les consommateurs, ils ont une certaine défiance des marques, qui ont parfois utilisé certainement les sujets d'RSE et d'éco-conception comme sujet de communication. Évidemment, on doit repenser tout ce sujet de transparence, de traçabilité. Notamment, il y a un très bel enjeu sur l'affichage environnemental. Et nous aussi, on travaille du coup sur... c'est un projet qui est actuellement en train d'être travaillé sur un éco-score qui serait une notation en fait, de nos produits. Sur notre empreinte carbone, sur les matières premières, sur nos transports, et qui permettrait de garantir en tout cas une note quand c'est légitime, qu'elle soit bonne ou mauvaise, puisque la transparence c'est aussi ça.
L'équivalent du Nutri-Score pour les aliments ?
Oui, alors certainement un peu plus poussé même que le Nutri-Score, parce que ça prend vraiment l'intégralité de cycle de vie du produit. L'idée aussi, c'est de noter, donc de cautionner cette grille de lecture qui est évidemment faite en interne par un organisme tiers pour légitimer du coup cette notation pour une meilleure transparence vis-à-vis des consommateurs.
Vous avez dit tout à l'heure que la pandémie avait eu un impact sur la façon dont on consomme. Est-ce que vous avez eu l'impression ou observé que cela avait eu aussi un impact sur le choix des produits qui étaient achetés en magasin ? Est-ce que les Français se sont dirigés vers des produits plus responsables, plus locaux, fabriqués peut-être en Europe et non plus en Asie, ce genre de choses ?
Alors, on a vu effectivement des changements, notamment sur les usages. Effectivement, de par le fait que les Français sont restés beaucoup plus longtemps chez eux, effectivement, aujourd'hui, ils sont très friands de produits multifonctions, nomades, plusieurs usages, ça c'est sûr, aujourd'hui plus ergonomiques. Clairement, il y a une évolution là-dessus. On nous demande effectivement d'où viennent nos produits. Ce n'est pas encore aujourd'hui un critère d'achat principal. Mais on sent qu'effectivement, la crise sanitaire a mis en avant un certain nombre de sujets, de responsabilités collectives. Et évidemment, ils sont de plus en plus demandeurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'enjeu de la transparence, ça va être de plus en plus important parce que les clients vont nous demander de plus en plus de choses sur la traçabilité notamment de nos produits, la provenance, mais pas que, les matières premières, etc.
D'ailleurs, on l'a dit, hein, But, c'est une entreprise qui existe depuis 50 ans et pour autant, vous n'avez pas forcément communiqué auparavant sur ces engagements. En tout cas, vous ne les mettiez pas en avant et vous n'avez pas été estampillé comme une entreprise qui était responsable, qui faisait attention à ça. Alors déjà, premièrement, pourquoi ? Et deuxièmement, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qu'il en est aujourd'hui ? Est-ce que chez But, vous commercialisez des produits made in France, des produits made in Europe ? Et peut-être nous donner quelques chiffres.
Alors moi, je suis sur ce poste depuis un an et demi maintenant. Et effectivement, quand je suis arrivée, j'ai souhaité faire un audit, donc un état des lieux en fait de nos actions, qu'elles soient collectives ou individuelles. Puisqu'effectivement tous ces sujets n'étaient pas vraiment communiqués chez But. Et en fait, j'ai fait appel du coup à un organisme tiers, donc l'AFNOR, pour effectivement réaliser cet audit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a obtenu le label donc l'année dernière, donc qui est le label engagé RSE de l'AFNOR, et qui en fait a mis en avant toutes nos forces et évidemment nos axes d'amélioration. Mais en fait, je me suis rendu compte, et finalement tout le monde s'est rendu compte, qu'il y avait beaucoup d'actions sur ces sujets, qu'on était très présents, notamment sur toutes les valeurs RH, mais aussi sur toutes ces notions de provenance, de proximité avec le Made in France, puisqu'aujourd'hui, il faut quand même savoir que 80% de nos achats sont faits en Europe, et puis 40% de nos achats dans l'ameublement sont faits en France. Donc on est probablement aujourd'hui les premiers vendeurs de Made in France en France. Et effectivement, on n'a jamais communiqué dessus. Alors chez But, l'humilité, ça fait partie des valeurs fondamentales. Donc on ne parle en général pas trop de ces sujets. Et c'est vrai qu'on est toujours parti du principe que tant qu'on n'était pas parfait, on ne communiquait pas. Et effectivement, la RSE, malheureusement et heureusement, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue. Donc effectivement, nous ne sommes pas parfaits, mais on a effectivement encore un long chemin, mais on a déjà quand même un beau socle. On défend un certain nombre de valeurs sur ces sujets, dont la provenance des produits. Et nos achats sont très sensibilisés à ça, et c'est historique dans l'enseigne. Donc oui, le Made in France est un sujet ancré dans l'entreprise depuis les années 70 et reste évidemment un sujet fondamental. Et oui, nous allons prendre un peu plus la parole sur ce sujet, d'où ma présence aujourd'hui.
Personne n'est parfait en matière
d'écologie. Personne n'est parfait en matière de RSE.
Alors, vous l'avez dit, donc vous commercialisez des produits confectionnés en France. Est-ce que vous avez un exemple ? Moi, en parcourant un petit peu votre site, j'avais repéré une gamme de literie éco-conçue. Je trouvais ça assez intéressant de l'évoquer, peut-être pour les auditeurs et les auditrices. C'est un point très important. Le sommeil est très important dans nos vies et c'est un sujet récurrent et qui intéresse beaucoup. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être nous parler de cette gamme-là ou d'une autre ? Peu importe, oui. Mais un exemple clé.
Alors, effectivement, en 2020, on a lancé une gamme de literie éco-conçue. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est une gamme de literie qui est fabriquée à partir de bouteilles en plastique, donc récupérées dans les océans et recyclées. Donc en fait, cette fibre éco-conçue qu'on appelle Sequal permet en fait, lors de sa fabrication, déjà de réaliser une économie de 40% d'énergie. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis 50% de réduction de CO2 par rapport à une fibre synthétique classique. On a lancé cette gamme en 2020, donc qui était quand même une première et plutôt novateur sur le marché. Et en fait, on a étendu cette gamme sur la partie couette et oreiller. Donc là, ce n'est pas tout à fait la même fibre, mais ça part exactement du même concept. Et en fait, cette initiative fait partie de la stratégie de l'entreprise de se lancer sur des gammes de plus en plus éco-conçues. Dans cette logique d'économie circulaire, parce qu'on part effectivement de produits comme la bouteille en plastique. Voilà. Donc on continue dans cette lignée. C'était effectivement une des premières gammes qu'on a lancées sur ce sujet. Mais,
Et en matière de tarifs, parce que c'est un sujet important, vous l'avez dit, l'idée c'est que ça reste aussi accessible et qu'on puisse toutes et tous se meubler. Comment est-ce que vous avez réussi à concilier les deux, à la fois cette gamme éco-conçue et des tarifs accessibles ?
Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a effectivement le fait que ça soit une gamme éco-conçue et que le fait que ça soit aussi du Made in France. Alors, le Made in France, en fait, je pense qu'il ne faut pas le résumer nécessairement à une histoire de prix. Bien évidemment, ça peut être parfois un facteur déterminant pour la faisabilité ou non d'un produit. Mais le Made in France, il y a beaucoup d'avantages en fait, à faire un Made in France. Il y a l'expertise, il y a la qualité des matières premières, il y a le savoir-faire, l'excellence du savoir-faire français quand même, qui est non négligeable. Il y a une main-d'œuvre qui est qualifiée. Il y a des circuits de distribution qui sont plus courts, donc une logistique qui est simplifiée, qui permet de livrer par exemple directement nos magasins. Mais parfois, effectivement, il y a des problématiques de main-d'œuvre, de coûts de main-d'œuvre, sur une chaîne de production par exemple qui est peu automatisée. Mais on arrive, nous, à concilier les deux. Par exemple, je vous donne un exemple, notre première cuisine, notre premier prix cuisine Uno, c'est du Made in France. Et elle est à 169 euros. Donc faire du Made in France à petit prix, c'est possible. C'est juste à un moment donné, effectivement, prendre les bonnes décisions sur les bons produits. Et c'est ce que font les acheteurs dans le quotidien. Jamais perdre de vue notre mission première qui est vraiment de proposer au plus grand nombre du prix accessible, donc de l'ameublement à prix accessible. Et en fonction de ce curseur-là, choisir si on fait du Made in France ou pas. Bien sûr, souvent, on privilégie le Made in France parce que c'est effectivement quand même notre ADN historique. Mais il ne faut pas réduire en fait, le Made in France à une question de prix. C'est possible, pas toujours. Aujourd'hui, nous, on propose quand même une gamme extrêmement large de Made in France. Hein. Donc, je vous le disais, la cuisine, la literie, on en parlait tout à l'heure. Mais pas que. Il y a d'autres produits d'ameublement comme les bureaux, comme le canapé. Donc, on a quand même une gamme extrêmement large. Donc, on arrive quand même à faire du Made in France tout en maintenant nos prix, puisque c'est vraiment le prérequis pour les achats. Voilà.
Donc il existe encore certains savoir-faire en France, tous n'ont pas disparu.
Non, tous n'ont pas disparu. Heureusement, il y en a certains qui n'existent pas, peu ou plus. Mais bien sûr, en France, il y a encore tout un tissu industriel avec des savoir-faire qui sont de beaux savoir-faire.
Et justement, en parlant des savoir-faire qui ont disparu, ou pas disparu, mais qui sont moins accessibles, vous me disiez, quand on a préparé cet enregistrement, que vous aviez essayé de relancer le secteur de la chaiserie en France et que ça n'avait pas forcément abouti tel que vous l'espériez. Est-ce que vous pouvez nous partager cette expérience ? Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des retours de la part de grands acteurs comme vous et comme But sur le marché, de savoir quelles ont été les limites du projet qu'ils ont entrepris et que ça arrive en fait à tout le monde d'essayer et de ne pas forcément y arriver.
Effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un panel de produits Made in France qui est extrêmement large, notamment sur l'ameublement. Mais effectivement, c'est vrai que la chaiserie, c'était un marché qu'on n'avait pas vraiment exploité sur ce sujet. Donc effectivement, pour nos 50 ans, on a souhaité tout simplement développer des chaiseries Made in France. En tout cas, ça tenait cœur à notre président. Donc effectivement, c'est l'objectif et l'ambition qu'on s'est fixé. On le fera, bien sûr, donc tout est possible et on l'a réalisé. Mais c'est vrai qu'on s'est heurté à quelques problématiques liées à une chaîne de production industrielle peu automatisée, donc effectivement avec un coût de main-d'œuvre assez élevé, ce qui explique pourquoi effectivement les prix étaient peu compétitifs, même si, comme je dis tout à l'heure, hein, les atouts étaient nombreux, hein, une expertise, du dessin in-house, donc ça permettait quand même d'avoir une vraie exclusivité sur le dessin, un savoir-faire, une excellence sur le choix des matières premières, du travail artisanal, donc bien sûr de beaux atouts sur ce sujet, mais malheureusement contrebalancés par un coût de main-d'œuvre assez élevé sur une fabrication peu automatisée, et donc du coup forcément une marge assez faible et difficile d'avoir un prix de vente accessible pour les produits. Mais et ça nous amenait quand même à, si on compare, à titre d'exemple, si je vous donne un prix, par exemple, x2 par rapport à des pays de l'Est, puis x2,5 par rapport à une chaise made in Asie. Donc les écarts sont assez conséquents. Ça ne nous empêchera pas de proposer quelques références, parce que c'était quand même notre volonté et notre ambition. Malheureusement, effectivement, à aujourd'hui, hein, encore une fois, hein, les choses peuvent évoluer, heureusement, et je suis sûre qu'elles évolueront dans les mois et les années à venir. On ne pourra pas avoir un référencement extrêmement large, mais par contre, on proposera quand même de la chaise Made in France à partir de cette année.
Votre président, il a l'air d'avoir très envie de relancer ce secteur d'activité, en tout cas. Donc, on verra d'ici quelques années, on pourra réenregistrer un épisode pour savoir où
J'en suis convaincue, je suis sûre que les choses seront différentes.
Donc, vous l'avez dit, quand vous le pouvez, les produits sont fabriqués en France. En Europe, beaucoup aussi, à hauteur de... cela représente, vous l'avez dit, 80% au total.
80% de Made in Europe et 40% de nos achats sont faits en France sur la partie ameublement, oui.
Pour autant, dans cette volonté d'aller vers et de tendre vers plus d'éco-responsabilité, vous cherchez quand même à préserver les savoir-faire, c'est ce que j'ai pu lire dans votre rapport RSE. Et notamment, on va prendre cet exemple parce que ça a été très tendance ces dernières années, le rotin, qui est un savoir-faire ancestral d'Indonésie. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on travaille quand on a envie d'intégrer dans ses magasins des produits confectionnés à base de rotin, mais qu'on veut préserver ce savoir-faire? Si on délocalise tout en Chine ou en Europe, ça perd son sens. Comment ça se passe?
Alors, vous l'avez dit, c'est vrai que notre volonté première, c'est bien évidemment de développer le sourcing le plus proche. Mais parfois, pour des questions de savoir-faire qui existent effectivement plus ou pas, ou qui n'ont jamais d'ailleurs existé en France, on choisit effectivement de travailler avec des pays plus lointains, comme l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie, pour leur savoir-faire ancestral, comme vous le disiez. Et on trouve que c'est important de garder ces savoir-faire là où ils ont été tout simplement créés et développés. Alors, c'est vrai que si on prend l'exemple du rotin, c'est vrai que c'est un bel exemple parce que c'est un produit qui a été extrêmement tendance et qui est toujours d'ailleurs très tendance et que nous, effectivement, on fait fabriquer en Indonésie, dans la ville de Sibéron, qui est aujourd'hui la ville du savoir-faire du tissage et du cintrage du rotin. Donc, c'est vraiment là où le rotin, la fabrication du rotin est la plus efficace et la plus jolie, la plus qualitative. Comment on fait pour garantir effectivement que ces fournisseurs, qu'ils soient en Indonésie, en Chine ou en Inde, soient des fournisseurs et que soient de bons partenaires? Parce qu'effectivement, nous, on raisonne toujours en partenaires, c'est important. Alors évidemment, on a structuré notre façon de faire, notre façon de choisir nos fournisseurs. On a une feuille de route qui est assez claire là-dessus. Et nos engagements sur ce sujet existent depuis très longtemps. On a une équipe de plus de 50 personnes en Asie, donc sur le terrain, qui sont à la fois des acheteurs et des auditeurs qualité, qui, sur le terrain, vérifient les usines, font des audits qualité, des audits sociaux, pour effectivement garantir l'état d'esprit, les méthodes de travail, les façons de recruter, les façons de traiter les collaborateurs dans les usines, qu'elles correspondent tout simplement à nos valeurs. Donc voilà, donc il y a vraiment une équipe qui est dédiée là-bas à ces sujets et puis qui aussi vérifie par exemple tout ce qui est substances chimiques, durabilité, résistance, voilà, donc ils ont effectivement cette responsabilité. Et puis on a un plan d'audit annuel, comme je vous le disais, où effectivement on va dans les usines. Alors, soit via des organismes tiers, soit via nos auditeurs, pour vérifier effectivement tous ces sujets de santé, sécurité, de droit au travail. Et en 2020, on en a réalisé 192, par exemple. Et chaque année, on a ce planning d'audit qui est réévalué pour garantir tout simplement qu'on travaille avec des bons partenaires.
Vous vous appuyez aussi sur certains labels pour avoir des produits qui soient labellisés, par exemple, ou certaines matières premières?
Oui, alors si on se parle du bois, par exemple, effectivement, on a un objectif, par exemple, en 2024, que 100% du bois utilisé dans nos meubles seront de sources responsables, via plusieurs vérifications. La première, c'est effectivement nos bois soient FSC, par exemple, c'est des labels effectivement internationaux qui certifient le bois. Et on travaille aussi assez étroitement avec une ONG qui s'appelle Earthworm Foundation, qui certifie en fait l'utilisation et la source de nos bois. Donc on a cette double vérification qui va nous amener donc à horizon 2024 à garantir que 100% de nos bois seront de sources responsables.
Donc vous pouvez être amené aussi à vous faire accompagner ou aider par des organismes tiers, des associations qui vont vous accompagner à mener à bien un projet, etc.
Oui, parce que effectivement c'est toujours d'être difficile d'être jugé parti. Donc c'est pour ça que effectivement chez But, notamment sur la partie bois, cette association avec Earthworm Foundation nous permet effectivement d'avoir d'être complètement objectif sur la provenance de nos bois et de les certifier. Donc, parce qu'évidemment, ils ont une connaissance très importante sur ces sujets. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une certification vis-à-vis aussi de l'extérieur et toute cette légitimité sur ces sujets.
Avant de terminer cet épisode, j'aurais aimé savoir, donc vous l'avez dit à de nombreuses reprises, vous fêtez vos 50 ans cette année, vous avez pris de nouveaux engagements. Pour autant, quels sont vos objectifs d'un point de vue très concret pour les années à venir, l'année à venir ou les années à venir comme vous souhaitez?
Alors, nous venons de formaliser en fait notre démarche RSE qui s'appelle Habitons mieux. Donc c'est notre ambition en tout cas pour les 5 années à venir, c'est notre plan de, c'est notre vision, ça va être notre cap vraiment pour les années futures. Et notre objectif, c'est vraiment de devenir la référence du choix responsable dans le secteur de l'ameublement et accessible pour tous. Donc ça, c'est vraiment notre objectif premier et ça va être vraiment tout le cœur de notre démarche RSE. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On a 3 grands piliers d'engagement. Donc le premier pilier, c'est le mieux produire. Donc là, on est vraiment sur du plus local, du plus responsable et du plus accessible. Donc on garde vraiment cet ADN But et puis cet enjeu dont je vous parlais tout à l'heure qui va être à la fois de concilier la contrainte budgétaire et le produit responsable. Notre deuxième gros pilier qui est mieux vivre ensemble, plus proche de nos collaborateurs, parce que c'est effectivement fondamental dans une stratégie RSE. Donc promouvoir la diversité, l'égalité des chances et donner du sens aux collaborateurs sur leur métier. Donc comment on va pouvoir infuser effectivement la dimension RSE dans chacun de nos métiers aujourd'hui. On a énormément de métiers différents, une diversité qui est très grande et ce qui fait aussi la richesse de l'entreprise. On est 9000 collaborateurs, donc effectivement des métiers comme vous disiez, la vente, la logistique, les achats, la communication. Donc voilà, on est quand même, on a un panel assez large et c'est comment en fait on va réussir à infuser cette réflexion autour de la responsabilité sociale des entreprises dans chacun des métiers. Comment chaque collaborateur va s'imprégner de cette politique RSE à travers de la sensibilisation, de la formation, des actions. Donc ça, c'est un enjeu quand même qui va être assez important. Et le troisième pilier qui nous paraissait quand même assez évident pour nous, parce qu'on a 320 magasins, donc on est extrêmement présent sur tout le territoire français, c'était comment on allait mieux contribuer à la transition de nos territoires, comment on allait rayonner autour de l'écosystème But, de ces magasins. Donc c'est vraiment mettre le magasin au cœur de la stratégie RSE, que ça soit l'emploi, que ça soit la gestion des déchets, que ça soit l'économie circulaire, que ça soit sa responsabilité sociale avec les ESS, vraiment tout l'écosystème autour du magasin. Et c'est vrai que ça a toujours été une force de l'enseigne. C'est pour ça que je disais en amont, la stratégie RSE n'a permis que de structurer et de formaliser des actions qui étaient déjà prises de manière collective et individuelle dans chacun des magasins. Donc, il y a déjà une recherche d'action et donc on veut vraiment mettre en avant le magasin et lui laisser en fait libre champ sur ses actions comme il l'a toujours fait et ça fait quand même partie de la proximité est une des valeurs de l'enseigne. Donc voilà, donc ces 3 piliers sont articulés autour de cette ambition globale qui est Habitons mieux. L'un de nos gros enjeux, je l'ai dit tout à l'heure, ça va être l'éco-conception bien sûr parce que c'est vraiment changer nos modes de fonctionner, changer, réinventer nos métiers. Donc c'est un beau projet qui va embarquer effectivement l'entreprise et nos consommateurs aussi, hein, puisqu'il va falloir les accompagner dans cette pédagogie, dans cette consommation raisonnée. Donc ça va être un très bel enjeu. Et puis le deuxième enjeu pour nous, c'est aussi quand même les collaborateurs, c'est fondamental. L'aventure humaine, elle existe depuis 50 ans chez But. On a 9000 talents, des femmes, des hommes, une diversité. On est très structuré sur la partie formation, promotion interne. Donc on veut vraiment continuer à accélérer sur ces sujets. Donc voilà, et puis je le disais tout à l'heure, les magasins qui sont quand même notre force aujourd'hui, qui font qu'aujourd'hui on est un acteur de proximité et on doit donner toute la légitimité à ces magasins-là.
Est-ce que vous auriez un conseil ou un dernier conseil pour les auditeurs et les auditrices de Basilic qui ont envie de concilier engagement écologique et ameublement, ou en tout cas qui voudraient parvenir à se meubler à prix accessible tout en respectant leurs convictions?
Alors en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Pour moi, avoir un aménagement un peu plus durable, un peu plus responsable, en fait c'est un mix de beaucoup de choses. Parce qu'on peut allier du neuf et du réemploi. Donc pour moi, déjà, c'est assez fondamental. Quand on choisit du neuf, je le disais tout à l'heure, quand on se parle de bois, par exemple, il faut effectivement s'assurer que le bois choisi... Alors, parfois, ça peut avoir une incidence sur le prix, mais pas toujours. Par exemple, chez But, c'est pas le cas. Il faut s'assurer que les bois soient labellisés, soient de sources responsables, soient certifiés. Donc ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on offre, en tout cas, beaucoup de produits certifiés. Le deuxième sujet, c'est, je pense qu'il faut avoir aussi des produits de seconde main. Je pense que c'est important d'avoir ce mix aujourd'hui neuf et puis seconde main qui donne aussi un cachet à la maison. Hein. Donc c'est aussi une tendance très déco. Donc pourquoi pas allier le déco et le responsable. Donc ça, c'est important. Et puis, je pense qu'il faut faire attention aussi à tout ce qui est normes. Bien faire attention quand on choisit un produit qui réponde aux réglementations en vigueur, parce qu'en France on a quand même un certain nombre de normes qui garantissent aux consommateurs des produits qui sont responsables et je pense aux substances chimiques, je pense aux matières, etc. donc c'est important de bien regarder ces aspects-là pour la pollution de l'air. Donc ça, c'est important quand on dans son intérieur, c'est très important. Donc c'est des petites choses qu'il faut regarder et puis c'est un mixte effectivement pour moi de neuf, de seconde main. Aujourd'hui on a l'embarras du choix et encore une fois en plus ça a une touche d'éco, donc c'est parfait.
Merci beaucoup Bérangère pour ces précieux conseils, c'était très intéressant d'en apprendre davantage sur But et je suis certaine que les auditeurs et les auditrices auront beaucoup aussi appris grâce à cet épisode, donc merci et puis rendez-vous est pris pour faire un point dans 5 ans
sur la progression. Avec grand plaisir, je suis sûre que les choses auront encore beaucoup évolué, donc en tout cas merci pour cet échange Jeanne.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, vous retrouverez l'ensemble des liens utiles dans la barre de description de l'épisode. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. À très vite.